province de l'Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont causé une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou. C'est notamment dans le Baéma Nord, Baéma Bagourou, Baéma Baniwangi et Ndo Okebo. Ce tableau sombre a été dressé hier dimanche par les notables des entités attaquées. Selon ces sources, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement des militaires FARDC dans la région. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Jean Bamanissa. Bonsoir.
Oui, bonsoir Alain.
Vous êtes député national honoraire et dernier gouverneur de l'ex-province orientale. Et vous êtes notable de la province de l'Ituri et opérateur économique. Jean Bosco Lalo. Bonsoir. Jean Bosco Lalo.
Oui, bonsoir.
Voilà, bonsoir, merci. Vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Sylvain Aguernoot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur pays de l'ONG dénommé les ambassadeurs de bonne volonté basé en Ituri. Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un membre du gouvernement provincial de l'Ituri sont restés vains. Qu'à cela ne tienne, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Tel que je le disais dans les sommaires, en Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes dans 4 collectivités en territoire de Djougou, à une centaine de kilomètres au nord de Bounia. Pour en parler, joignons José Deschartes Menga, un de nos correspondants dans la province de l'Ituri. Bonsoir José Menga. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps dans le territoire de Djougou?
Bonsoir Alain Rung. Les attaques des villages se sont multipliées la semaine dernière dans le territoire de Djougou. Ce territoire qui fait frontière au nord avec la ville de Bounia. 5 attaques entraînant mort d'hommes, incendie et pillage des villages, ainsi que déplacement des populations sont enregistrés dans un laps de temps. Tenez, dans la nuit de vendredi à samedi, 7 villages, dont Sala, Lita, L'Oignon, au groupement Mandro, dans la chefferie des Baïma Banywagi, située à moins de 20 km au nord de Bounia, ont été la cible de ces assaillants. Cela a continué jusque dimanche dans l'avant-midi. Et puis dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours de la semaine dernière, les localités de Tsatsaku, Upa, Pati et Lidjo, au groupement Toro, en collectivité des Baïma Bagourou, ont fait les frais de ces mêmes assaillants. L'attaque la plus meurtrière de la semaine passée s'est déroulée dans la journée de jeudi. 3 villages du groupe Pandaura, chefferie des Baïma Nord, ont subi la cruauté de ces bandits. Et donc, les décomptes macabres donne plus de 50 personnes sauvagement tuées dans une cruauté innommable et principalement à l'aide d'armes blanches. Et parmi les personnes tuées, il y a un capitaine de FARDC, ça c'est pour la semaine dernière, des femmes, des vieillards et des enfants. Des villages rasés, d'autres vidés de leurs habitants, et des habitants donc qui affluent par milliers, soit vers Bounia, soit vers d'autres centres, soit encore vers l'Ouganda voisin. Il faut dire que ces chiffres viennent s'ajouter à ceux des semaines précédentes.
Qui sont ces assaillants? Est-ce qu'il y en a qui ont été arrêtés?
Depuis le début de ce conflit, plusieurs acteurs parlent d'assaillants, entre guillemets, sans clairement les désigner. Cependant, le 8 mai dernier, le gouverneur de province, Abdallah Penembaka Jefferson, a déclaré que ces assaillants viennent de certains villages lindous. Ce que le chef de Walendu Jati n'a pas reconnu la semaine dernière dans un entretien avec Radio Capi. D'autres interlocuteurs, dont l'évêque du diocèse catholique de Bounia, Monseigneur Dieudonné Orindi, refusent de créditer la stigmatisation de l'une ou l'autre tribu. Pour cette catégorie de gens, donc, on ne peut pas parler de la guerre interethnique. Cependant, à l'Erung, le commissaire provincial de la police, le général Henri Capel, affirme avoir arrêté au front plusieurs assaillants. Mais ils n'ont jamais été présentés à une juridiction pour qu'ils soient identifiés et jugés. Plusieurs structures, dont la société civile de l'Ituri, exigent des procès afin de mieux identifier ces gens et voir si ces conflits ne relèvent pas d'une manipulation des pions sur terrain comme d'aucuns le pensent ici à l'Ituri.
Pour terminer, José Deschartes Menga, comment expliquer que les personnes soient tuées alors que la police et les FARDC sont déployés à Djougou?
C'est cette question que se posent les Congolais de l'Ituri à l'Airung. En effet, selon les chiffres du ministre de la Défense, Atama Tabe, qui séjourne ici, il y a un peu plus de 1000 hommes supplémentaires déployés dans le seul territoire de Djougou. Ce Ce sont des policiers venus de Kinshasa, des éléments des FARDC venus de Guéména, dans l'ex-Équateur, d'autres hommes de la 31e brigade du général Akili, alias Mundos, venus de Mambasa, et sans compter le premier escadron parti de Bounia, donc des premiers escadrons qui font partie des unités basées à Bounia. Alors, cette surmilitarisation de la zone contraste avec les exactions qui continuent à s'enregistrer sur terrain. Et c'est ce qui fâche la rue ici à Ituri, et ce qui a poussé aussi à la paralysie des activités à Bounia depuis ce lundi matin à l'Aïrung, et c'est parti pour 2 jours de paralysie d'activité.
Merci José Deschartemenga et bonne soirée à Bounia.
Merci à l'Aïrung. Au revoir.
Jean Bosco Lalo, vous êtes coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Comment expliquez-vous ces tueries qui ont causé la mort de plus d'une cinquantaine de personnes?
Oui, merci pour la question. En tout cas, José Deschartemenga a déjà dit l'essentiel. Mais nous voudrions ajouter à ce qu'il veut de dire, les assaillants, comme il dit à tes guillemets, ils se déplacent à pied. Ils ne sont pas en avion, ni en véhicule, ni en moto. Ils se déplacent à pied et de temps en temps à moto. Et parfois, ils parcourent plus de 30 kilomètres pour aller commettre les forfaits. Et vous savez, Djougou, c'est territoire de savane. Il n'y a pas de forêt. Et avec le nombre de militaires, avec les autorités politico-administratives qui sont dans les villages, on ne comprend pas et on ne saura pas comment justifier que cela se déplace sur 30 kilomètres, qu'il les a incendiés plus de 1000 maisons, qu'ils puissent massacrer sauvagement plus de 50 personnes parfois et par jour, et que les gens qui se disent des forces de l'ordre, police, armée, et qui sont envoyés pour la mission spéciale, ne puissent même pas s'apercevoir de ça. Donc pour nous, vraiment, ça dépasse l'attendement humain, et la population estime même que c'est une complicité qui ne dit pas son nom. Et pas seulement ça. Les assaillants, entre guillemets, ont été présentés à la police lors de l'arrivée du vice-ministre Chadari, et le nombre était plus ou moins 40. Aujourd'hui, le nombre doit être au-delà de 50 ou 60. Mais curieusement, depuis qu'ils sont à la police, ils n'ont jamais été ramenés devant leur juge naturel, ou l'auditorat, ou bien le parquet. Et pour nous, si on les déférait devant les cours et tribunaux, ça permettrait à ces constats finalement de qui il s'agit. Mais nous avons été surpris désagréablement d'apprendre que le gouverneur de province qui a pris leur défense prétend que ces gens-là sont traumatisés. Il fallait leur laisser un peu de temps pour qu'ils se calment, parce que selon lui, ils parlent pêle-mêle ici de nos gens. Et pour nous, c'est très grave. Et nous avons écrit la semaine passée pour exiger qu'ils soient rapidement déférés devant le cours tribunal, chose non faite jusqu'à ce jour. Donc vous comprenez avec nous que la population est au bout de patience, et nous craignons évidemment que les gens se prennent en charge ou les gens fassent leur autodéfense, et avec le risque que cela peut atteindre la région, et chose que nous ne souhaitons pas, et nous pensons que l'État est responsable de tout ce qui arrive actuellement à Djougou.
Jean Bosco Lalo, vous parlez d'incompréhension, vous parlez même d'une complicité qui ne dit pas son nom. Que disent les officiels sur place, le gouverneur des provinces, les députés provinciaux? Il y a un auditeur, Emma Watoum, qui dit: nous voulons écouter les notables de l'Ituri qui jusqu'à là sont restés muets face au drame que connaît la province. Nous ne comprenons pas leur silence.
Mais présentement, nous sommes surpris que les gens attendent les notables parler, parce que vous savez, c'est l'État congolais, à travers tous les services qui existent, qui a les pouvoirs régaliers. Et avec ces pouvoirs-là, l'État a justement la capacité de contraindre et de protéger la population et leurs biens. Donc comment on peut aujourd'hui remettre la chose sur les notables? Et c'est là où justement nous condamnons, et nous les condamnons toujours, que certaines personnes ou certaines mauvaises langues puissent vouloir amener l'Ituri aujourd'hui sur le schéma des guerres ethniques qui n'existent pas du reste. Et nous avons aussi été surpris désagréablement de voir que sur les chaînes de télé à Kinshasa, qu'on est affiché déjà aux premières heures de ce qui s'annonçait comme attaque, comme des tueries, qu'il s'agissait des conflits Hemalendu. Et c'est pour nous, c'est une frustration. Nous voudrions que cela cesse. Et comme nous l'avons déjà dit, l'État doit jouer son rôle. Il ne faut pas charger les notables en fait ceux des civils et qui ne peuvent qu'apporter leur appui à l'État. Et j'allais ajouter ceci. Le gouverneur de province, Abdallah Fenembaka, depuis le début de ces attaques des assaillants. Il a fait des réunions avec toutes les communautés, principalement la communauté Hemalendu. Il y a eu plusieurs réunions. Il ne saura pas dire aujourd'hui qu'est-ce qui est sorti, en fait, qu'est-ce qui a à quoi ces réunions ont abouti. Et nous, pour nous, comme société civile, nous avons plutôt constaté qu'il maintient ces deux communautés en parallèle pour qu'ils ne se rencontrent jamais et qu'ils ne posent aucun acte en commun. Mais nous savons que ces deux communautés sont allées vivre en symbiose en dépit justement de ce qui arrive aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire, Jean Bosco Lalo, qu'il ne s'agit pas d'une guerre intercommunautaire, interethnique? Cette assertion a aussi été rejetée par Monseigneur Dieudonné Oringi.
Nous sommes nés et grandis à Ituri, même si on a la chance de vivre ailleurs au Congo. Lorsqu'on a parlé des conflits interethniques ici à Ituri, c'était entre 1999 et 2003. À l'époque, l'État n'existait pas. Il y avait plutôt les Ougandais. Et la population estime même, en se rappelant de ces tristes moments, que les Ougandais, donc les rebelles Ougandais, protégeaient les civils même mieux que les partisans d'aujourd'hui. Une chose qui est grave, et nous on n'aimerait pas dire ça sur la voie des ondes, mais on doit le dire parce que c'est ça la situation, et qu'aujourd'hui avec un état de droit, l'État qui a tous les services nécessaires, l'ANR, des MIAP, je ne sais pas pourquoi, les FADC, la police, l'administration, et nous avons même la province de l'Ituri qu'on a réclamée, et qu'on ne soit pas à mesure de dire quoi que ce soit de précis si ça se passe,
à tout ça nous inquiète. Merci Jean Bosco Lalo, je reviens à vous tout à l'heure. Jean Bamanissa Saïdi, vous êtes député national honoraire et dernier gouverneur de l'ex-province orientale. Vous êtes notable de la province de l'Ituri et opérateur économique. On vous a reçu il y a quelques semaines dans ce studio, pratiquement sur le même sujet. Et visiblement, la situation va de mal en pis. Comment vous expliquez cette escalade?
Oui, Alain, tout à fait. Il y a 3 semaines, je pense, que nous étions ici exactement. Et nous avons parlé de ces questions qui étaient en train de ressurgir. Et il est dommage que nous venions encore en parler, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Justement, c'est l'exercice à faire actuellement à tous les niveaux, que toutes les personnes puissent avoir une communion d'esprit, tous les Ituriens ensemble, pour pouvoir juguler le mal, pouvoir l'identifier, pouvoir le vaincre. C'est qu'il l'aurait été, et puis bon, je profite encore malheureusement pour présenter toutes nos condoléances aux nouvelles familles qui ont été affectées, et les images sont horribles à voir, et cela touche en tout cas non seulement les Ituriens, mais tous les Congolais et même les gens d'extérieur. Ce qu'il aurait été bien, c'est d'avoir un cahier de charge déjà, parce qu'on doit tous se mettre ensemble sur une voie qui soit celle du retour de la paix, celle qui puisse permettre de restaurer l'autorité de l'État. Vous savez, on parle ici, José qui est sur place l'a dit, ce sont des assaillants, ce sont des bandits. Ce n'est pas une question de communauté contre une autre, non. Nous ne voulons pas du tout, justement, comme le disait encore Jean Bosco, stigmatiser toute une communauté sur des faits qui remontent, dont la responsabilité incombe à certaines personnes seulement, qui se sont manifestées par des actes de violence inouïe.
Et donc il y aurait manipulation, selon vous?
La restauration de l'autorité de l'État, c'est la justice qui doit être appliquée, c'est le respect de la loi, c'est traquer, isoler tous ces fauteurs de troubles pour qu'ils soient, en tout cas, déférés devant la justice. Et c'est aussi le travail entre les responsables locaux, les chefs de groupement, les chefs de village, des chefferies, les administrateurs de territoire, les leaders d'opinion ensemble qui doivent se mettre sans tenir compte des origines de communautés quelconques, mais tous ensemble, nous l'avons vu. Vous savez, quand il y a des actes terroristes en Europe aujourd'hui, on ne regarde pas qui intervient, on a le monde entier et tous les partis politiques se mettent ensemble, tous ceux d'origines différentes se mettent ensemble pour pouvoir combattre ce mal. C'est la situation dans laquelle nous sommes et pour laquelle nous devrions aussi avoir une méthodologie d'approche qui soit non seulement celle de la force de l'autorité de l'État, mais aussi de l'esprit et de cette communauté qui va rendre forte la résistance, en tout cas, à ce mal.
Alors, nous allons revenir avec force et détail sur vos propositions pour apporter des solutions durables à cette situation. Mais nous avons suivi récemment les déclarations de Monseigneur Dieudonné Ouringi qui dit que ces massacres sont perpétrés par des jeunes gens qui sont instrumentalisés, manipulés. Et il dit, par exemple, parce que vous imaginez-vous, ces jeunes gens qui s'attaquent aux autres ont des moyens de communication, des Motorola presque tous, ils ont de l'argent, ils sont organisés. Cela veut dire qu'il y a des mains invisibles, des personnes qui les manipulent.
Effectivement, ce n'est pas parti comme ça. Certainement, des gens qui sont en phasage avec la société pour quelques motifs que ce soit, et ici ce n'est pas des motifs politiques, c'est peut-être une situation de frustration qui devrait être connue. Pourquoi agissent-ils comme cela? Est-ce que c'est des problèmes de chômage? Est-ce que c'est des problèmes de difficultés de la vie? Et il y a certainement quelques-uns qui doivent se retrouver quand il manque l'autorité de l'État dans certains coins. Et voilà, elle est reprise en main par des gens qui deviennent des chefs de groupes armés, de petites milices, et qui veulent se démarquer en allant commettre ce genre de crime. Donc c'est au niveau très local. Ce n'est pas, nous ne pensons pas, en tout cas après analyse, que ça puisse avoir des ramifications autres que celles de personnes aujourd'hui, malheureusement, dans ce monde qui ne recherchent que le mal.
Mais il y a aussi et toujours ce problème de l'identité des assaillants qui reste un véritable mystère. On est un peu dans le cas pratiquement, j'allais dire, du Nord Kivu, dans le territoire de Beni, où on parle toujours des présumés ADF. Et là, à Djougou, les assaillants ne sont pas connus. Il y en a certains qui ont été appréhendés, mais ça prend quand même beaucoup de temps pour qu'on connaisse leur identité.
Effectivement, toute la sous-région, quand vous quittez dans la configuration de l'ancienne province orientale, déjà à partir de Bafoussende, le sud, vers Nyanya, Mambasa, Irumu, Sud-Irumu, le nord avec Haru et Mahagi Djougou, nous avions des problèmes aussi. Ces questions sont toujours résurgentes. Il y a toujours de petits groupes armés, dus surtout à cette prolifération de commerce illicite qui peuvent apparaître à tout moment. Mais nous ne pensons pas qu'il faille stigmatiser une communauté comme une autre. Ces cas peuvent se retrouver à certains endroits, mais aujourd'hui, puisqu'elles sont ciblées à certains dans le territoire de Djougou, il faut aller trouver des solutions avec des responsables sur place. Puisque nous parlons effectivement de la présence de la police, de la présence de l'armée, comment est-ce qu'elle pourrait se déployer, comment est-ce qu'elle pourrait agir si elle n'a pas l'assistance de communautés locales, des leaders locaux, qui doivent leur donner les premiers éléments, qui doivent livrer. On a toujours le FRPI aussi qui continue à s'aimer la désolation au sud du Rumo. Mais tant que la communauté locale n'a pas résolu de pouvoir livrer ces enfants qui commettent des exactions, ce sera difficile pour l'armée et la police.
Merci. Sylvain Aguernoot, vous êtes directeur pays de l'ONG dénommée les ambassadeurs de bonne volonté basés en Ituri. Vous avez suivi Jean Bosco Lalo et Jean Bamanissa. Comment vous expliquez ces nouvelles tueries?
Je commence d'abord par saluer, et ceci c'est par la courtoisie africaine et peut-être congolaise, Jean Bamanissa Saïdi, mais aussi le coordinateur de la société civile de Ituri, M. Jean Bosco Lalo. C'est vrai que déjà ils ont commencé par relever un certain nombre des acteurs qui interviennent dans ce conflit à Ituri, mais aussi de certaines causes. Je suis d'accord avec eux, mais je vais y revenir. Mais je voudrais ici tout de suite rappeler que dans notre organisation, depuis le 5 février 2018, la dernière date de la reprise des hostilités à Djougou, nous nous sommes déplacés à Fataki pour échanger avec la communauté, pour essayer de comprendre la chose. Et nous nous sommes dit à l'époque, de par les informations que nous avions reçues, c'est que c'était déjà un crime qui devait être réprimé par la Cour pénale internationale. Pourquoi? Puisqu'il y avait une guerre, et je dirais même une agression adressée contre une communauté. Nous ne voulons pas dire laquelle. Mais aussi,
en date du 12 février 2018, à l'entrée en fonction de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Mme Leila, que je salue d'ailleurs en passant, nous lui avons déjà rappelé que la situation était grave. Aujourd'hui, avec les deux communiqués qui ont été signés simultanément par la communauté Lendou regroupée dans l'ORI, mais aussi la communauté MA regroupée dans NT, nous comprenons que tout de suite, nous devons d'abord adresser nos compassions à la communauté, ou soit à toutes les communautés qui sont touchées à Ndjougou. Pourquoi ? Puisque ce qui se passe à Ndjougou, c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce que nous disons ? Nous pensons que, effectivement, comme M. Lalo l'a dit, il y a une responsabilité de l'État. Comment cela se prouve ? Tout simplement, puisque la Constitution de notre République charge le gouvernement pour protéger la population, protéger ses biens, et donc lui assurer une sécurité et une quiétude absolue. Nous sommes tout à fait d'accord. Et vous avez compris avec Jean-Marc Saïdi, c'est qu'il est allé loin de l'autorité de l'État pour épingler la responsabilité des partis politiques. Pourquoi ? Puisqu'il n'a pas été explicite, moi j'ai dit quelque chose là-dessus. Si aujourd'hui les gens se battent à Ndjougou, mais il y a des partis politiques qui ont des militants là-bas, est-ce que cela peut interroger sur la conscientisation, la formation de la conscience nationale par les partis politiques en Ndjougou? J'ai dit oui. Deuxième chose, est-ce que les églises qui sont en Ndjougou essayent de prêcher la parole de Dieu pour que les gens puissent s'aimer? J'ai dit non. Pourquoi? Puisque les gens se battent de l'autre côté. Deuxième chose, il faut retenir, comme Jabamaïsa Saïd l'a dit, est-ce que c'est un problème de chômage? Moi, je préfère une conception de la responsabilité sociale des entreprises en Ituri qui n'essaie pas de se focaliser sur la construction d'une société équitable. Ça veut dire, si les gens sont au chômage et que, par les mêmes faits, les gens sont manipulés par l'effet de leur pauvreté, c'est que certainement, les différents acteurs mis en jeu, c'est que j'appelle les acteurs participant au conflit de Ndjougou et par les faits même, ne font pas la prévention des conflits armés en Ndjougou. Donc, il y a des responsabilités de part et d'autre. L'État, oui, puisqu'il est présupposé gérer la population et aussi prévenir des catastrophes telles que nous les connaissons aujourd'hui en Ndjougou, mais aussi, de l'autre côté, la population a-t-elle la conscience et l'amour de la patrie? Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et moi, je pense qu'au début de cette émission, nous devons condamner d'abord suffisamment ce qui se passe en Ndjougou. Pourquoi ? Puisque ça crée ce qu'on appelle le dépérissement de l'autorité de l'État. Et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi, M. Alain ?
Sylvain.
Parce que tout de suite, ce qui se passe, oui.
Voilà. Est-ce que vous confirmez la thèse de la manipulation, comme l'ont soutenu Mgr Ouringui, Jean Bosco Lalo et même Jean Bamanissa ?
Je voudrais d'abord apprécier à juste titre le travail que fait l'Église catholique à ce qui concerne d'abord toute la nation congolaise, mais aussi particulièrement le territoire de Ndjougou. Je sais les efforts que déploie l'Église pour que les gens vivent en paix. Mais ici, M. Alain, la responsabilité, elle est patriotique. Est-ce que nous savons que le seul pays qui nous appartient, c'est la RDC? Est-ce que nous savons que le seul territoire, et là j'ai... m'oppose à la population de Ndjougou. Le seul territoire qui nous appartient, c'est Ndjougou. Si nous le savons, faudra-t-il aller vers les manipulations? Moi, je pense que nous devrions, en tout cas à toutes circonstances, essayer de voir dans quelle mesure résoudre nos problèmes dans la paix. Et ça veut dire prendre les questions qui nous unissent en tant qu'un peuple, même dans un territoire.
Merci.
Pour que ceci ne puisse pas nous diviser. Mais écoutez, Alain, lorsque vous regardez les deux communications qui ont été faites hier par la communauté NT et de l'autre côté la communauté Lori, nous avons comme l'impression qu'il y a une guerre entre les deux communautés. Or, tout est
merci Sylvain.
Toute observation intelligente faite.
Merci Sylvain. Merci Sylvain. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour que vous puissiez poursuivre votre idée. Jean Bosco Lalo, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Sikiri Chomba de Bukavu au Sud Kivu. Je me rends compte que les événements qui endeuillent la RDC, l'Ituri en particulier, n'est qu'une stratégie mise en place pour détruire notre pays en fabriquant des guerres tribales sans fin afin d'ouvrir des portes à des conflits sans interminables pour s'en servir avec des objectifs inavoués. 1. Détruire la cohabitation sociale et pacifique, mais aussi l'unité et la stabilité du pays. 2. Semer la confusion entre différents groupes ethniques vivant dans la paix avec des massacres, pillages systématiques, enlèvements, tortures, viols et assassinats répétés de notre population sans armes ni défense. 3. Exterminer la population pour les forcer à quitter leur lieu d'origine pour enfin nier, piller les ressources tout en les poussant dans des guerres meurtrières. 4. Faire de l'Est de la RDC un champ de bataille de toutes les forces du mal.
Jean Bosco Lalo.
Oui, en fait, moi, je respecte l'analyse de l'auditeur, mais je ne le partage pas totalement. Mais j'allais souligner quelque part, lorsque vous suivez sur l'ensemble de la RDC, l'Ituri, dans toutes les manifestations qui sont organisées, même les gens qui désavouent publiquement le gouvernement congolais, l'Ituri ne s'y est jamais inscrit. Est-ce que c'est ça le salaire qu'on nous réserve aujourd'hui parce que on est passif, parce que on pense qu'il faut laisser l'espace à la paix et puis il faut consolider la vie dans les milieux ruraux, dans les milieux ruraux pour que les gens ne puissent pas sombrer dans les violences. En tout cas, ce qu'il dit m'interpelle. Et nous pensons qu'il y a lieu aussi que le gouvernement en attire les conséquences. Et j'allais ajouter pour dire que l'Ituri a eu en 2004-2005, lorsqu'on a démobilisé, l'Ituri a plus de 10 000 démobilisés. Et les jeunes gens qui sont à l'Ituri n'ont pas besoin d'une formation militaire pour prendre les armes. Et nous pensons que ce n'est pas le moment. Nous préférons que l'Ituri, qui a beaucoup souffert, ne puisse pas encore sombrer. Donc il y a lieu justement que ceux-là qui suivent Félix Bassadjougou interviennent rapidement pour que cela cesse et cela cesse définitivement.
Il y a Abednego Zachary Kingombe qui dit ce qui fait mal dans cette situation, c'est la légèreté avec laquelle le gouvernement fait semblant de résoudre cette crise. Mais pourtant, Jean Bosco Lalo, on a vu une certaine mobilisation de la part du gouvernement, non seulement en hommes, en force de sécurité, mais aussi à des membres du gouvernement qui sont descendus sur place pour faire face à cette situation.
Nous reconnaissons tout ce qui était bien fait. Nous reconnaissons aussi les efforts déployés par les autorités militaires et policières ici à Ituri. Mais en même temps, nous ne pouvons pas accepter une seule minute, une seule seconde, pendant justement qu'on a déployé des militaires et que le nombre de personnes qui sont tuées puissent augmenter. Et c'est paradoxal même qu'on dise aujourd'hui qu'il y a un appressement pour l'Ituri. Vous savez, Chadar est venu, ça fait plus ou moins 2 ou 3 semaines. Nous avons reçu le ministre des Affaires humanitaires qui vient de Kilturi aujourd'hui, qui a amené des aides dont lui-même connaît la quantité, parce que publiquement rien n'a été dit. Et aussi, nous avons reçu aujourd'hui les VPM avec une dépasse qui est arrivée hier. Donc, vous comprenez quand même qu'il y a déjà qui arrive. Mais la population n'a pas besoin d'arriver à Kilturi. La population veut la paix. Donc, si elle n'arrive pas à donner la paix, d'accord. Mais s'ils viennent pour le tourisme, ça nous donne.
Jean Bamanissa, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu Sud, Kivu.
Abamungu Balibouza de Bukavu et aux âmes de ces victimes qui viennent s'ajouter à Tshibebeni et Dikusai. À l'aller où va le pays, j'ai comme impression que l'État n'existe plus au Congo. Et s'il existe, c'est que la protection des vies de ses citoyens ne fait pas partie de ses priorités. Je crains fort que ce conflit n'ait les mêmes effets sur le processus électoral comme c'est fait avec les conflits Kamwenasapu au Kasai. À Beni, on tire le gouvernement presque impassible. Au Kasai, c'est fait le même cas. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Ituri. Le gouvernement, à travers nos phares d'essai, a-t-il le choix de sécuriser sa population? On dirait que le gouvernement congolais n'agit avec détermination dès lors qu'il s'agit des faits touchant ses intérêts tels que les marches pacifiques et toute autre voie contraire à son idéologie.
J'ajoute cette réaction de Patient Biamungu qui dit que ce n'est pas du tout difficile à expliquer avec la récente déclaration du président de la CENI par rapport à cette situation de l'Ituri vis-à-vis du processus électoral en cours. On peut conclure tout simplement qu'il y a anguille sous roche. On ne sait pas plutôt expliquer la coïncidence des points de vue entre le président de la CENI et ceux de certains acteurs politiques. Jean Bamanissa.
Oui, nous ne voudrions pas croire que tout cela soit pour ses fins. Et nous pensons que si cela est le cas, nous arriverons toujours à connaître la vérité. Mais nous ne devons pas rester sur des supputations. Nous devons mettre les personnes devant leurs responsabilités et trouver des solutions. C'est pour cela que tout le monde doit se mobiliser. Sabamungu qui a cité le cas du Kasaï qui s'est arrêté, c'était très grave. Cela a fait peur. Il y a eu justement une levée de front de toute la population parce que les risques sur les élections, sur le calendrier étaient perceptibles. Et un risque d'embrasement aussi général était imperceptible. Alors c'est pour cela que l'Ituri doit être compris, doit être entendu, doit être écouté et il faut des solutions rapidement. S'il y a des erreurs à faire, il faut les corriger. Il faut aussi opérer certainement la sanction. Il faut des changements politico-administratifs. S'il y a des responsables groupements territoires ou chefferies qui n'ont pas été à la mesure de leurs responsabilités, s'il y a des responsables sécuritaires. C'est ce que je dis parfois. Comment est-ce que cela se fait que nous n'ayons pas anticipé ces questions-là? Il y a des responsables de la justice, de sociétés para-étatiques ou des autres forces de sécurité politico-administratives qui devront en porter les responsabilités. Et je crois que cela est une phase aussi normale quand il y a eu un échec sur l'une ou l'autre phase de la vie citoyenne, de la vie d'une nation. Il faut en tirer les conséquences et il faut appliquer les sanctions.
Alors, parmi les solutions, vous proposez, notamment dans ces documents que vous avez publiés dans les réseaux sociaux, vous proposez par exemple qu'on arrête les tendances à considérer l'Ituri comme le garde à manger, définition des députés nationaux entre parenthèses, arrêter et punir l'affairisme des responsables étatiques.
Oui, l'Ituri c'est toujours plein. Et on en avait parlé la dernière fois ici, après les événements de 98 à 2003, l'Ituri était une zone qui n'était plus prise en compte par le gouvernement central ni par les autres entités. Et on a l'impression, les Ituriens ont souvent eu l'impression que ceux qui y sont envoyés, quelquefois, c'est pour leur propre profit. Donc l'affairisme, effectivement, doit être arrêté. C'est une zone fragile. C'est un peu comme la zone de Goma avec toutes les fraudes, avec toutes les opérations qui sont en dehors de la loi, qui peuvent être faites. La frontière est là, l'exportation de l'or. Vous savez qu'il y a beaucoup de quantités d'or qui sortent de l'Ituri, certainement plus de 500 kilos par mois, mais il y a pratiquement pas plus de 20 kilos qui sont déclarés. Donc, beaucoup de personnes, effectivement, sont en Ituri par affairisme.
Voilà, Sylvain Aguernoot, nous allons prendre pour vous cette réflexion qui nous vient de Mbandaka.
J'ignore bon point à partir de la ville de Mbandaka. Je pense que ces attaques répétées et perpétrées à l'est du pays par les hommes de la loi ne sont pas fortuites. C'est inadmissible et incompréhensible, d'autant plus que l'armée ne joue pas bien son rôle, à savoir assurer la sécurité territoriale et de sa population. N'y a-t-il pas d'échec point afin de dénicher ces intrigues qui viennent causer du tort aux innocents? Car, à mon humble avis, les véritables problèmes se trouveraient au sein de l'armée. Et il doit y avoir des complices, sans doute, parmi les rangs. Et derrière tout ça, il y a aussi une main invisible qui tire les ficelles. Il faut agir vite, en mettant en place une enquête et les responsables soient traduits en justice.
Une enquête, la justice, c'est ce que propose aussi la MONUSCO. Et parmi les solutions, Jean Bamanissa a parlé de la restauration de la confiance entre gouvernants et gouvernés. Sylvain Aguernoot, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Il faut dire que, et ça c'est la conviction de mon organisation,
c'est que c'est alors de tous les temps et de tous les gouvernements du monde, le rôle premier de ces gouvernements, c'est d'assurer la sécurité de la population et de ses biens. Et donc, si nous considérons cela, je donne raison à Junior. Et dans la sécurité de l'État, il y a la combinaison corrélationnelle des institutions qui doivent participer à la fin. C'est qu'effectivement, avec la situation actuelle, on peut se poser des questions, au niveau surtout de la province de l'Ituri, puisque nous parlons de l'Ituri et de Ndjougou spécialement. Est-ce que les FRDC, la PNC, les services de renseignement, avec l'exécutif provincial, combinent correctement les efforts d'État pour gérer la catastrophe actuelle? La réponse risque d'être non. Puisque, en fait, quand les gens parlent de l'armée, tel que mon frère Junior l'a dit, d'ailleurs je l'ai salué en passant, c'est qu'il y a un problème d'information. Les FRDC ne peuvent agir que là où la PNC, les éléments de la PNC sont dépassés, et les éléments de la PNC seront dépassés lorsque les éléments de renseignement ne fournissent pas des informations correctes. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette thèse-là. Mais ici, M. Allais, laissez-moi te dire une vérité. C'est qu'au-delà de tout, nous devons d'abord avoir l'amour du pays. J'insiste là-dessus, puisque moi, je pense que construire une sécurité dans un pays, c'est d'abord un fait de l'amour de sa patrie. Et ce qui est vrai, l'État, dans la définition vulgaire, c'est moi, ce sont mes frères de Ndjougou aujourd'hui qui subissent des conséquences, et même ceux-là qui sont appelés des mercenaires qui tuent les gens ou qui que ce soit, qui sont en Ndjougou aujourd'hui, qui sèment panique et désolation. Donc moi, je crois clairement que ce qui se passe dans notre pays, c'est en fait un dysfonctionnement du système de notre gouvernance, et ceci fait aussi appel à la responsabilité populaire. Et c'est là où j'ai toujours dit, en 2009, quand j'ai tenu mes conférences dans plusieurs pays de l'Afrique, et spécialement dans la ville de Bounia, dans laquelle je suis, je disais ceci, c'est que la citoyenneté responsable pousse à ce que chaque citoyen soit responsable, excusez-moi pour la tautologie, de sa propre sécurité. Et si cela est fait, on ne peut pas autoriser même une manipulation. On ne pourra même pas permettre qu'un militaire qui ne connaît pas son rôle et sa fonction, sa mission, puisse commettre un dégât dans une entité. Merci. Et c'est là où je dis, c'est que tous les acteurs intervenant dans la gestion de la cité à Ituri, et précisément à Ndjougou, ont échoué dans leur mission. Donc, nous devons faire appel à un nouvel homme. Congolais,
merci.
À un nouvel homme de Ndjougou pour que nous arrivions à terminer ce dossier.
Merci. Merci Sylvain. Je vous redonne la parole tout à l'heure pour conclure. Jean Bosco, qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions durables à cette situation?
En tout cas, nous, premièrement, nous retenons ce qui a été dit. Lorsqu'il n'y a pas une confiance entre les gouvernants et les gouvernés, ici, nous faisons allusion à l'autorité provinciale qui, dès son arrivée à l'Ituri, a voulu asseoir son pouvoir sur le conflit Malendou. Et il y a des lettres qu'il a rédigées et demandé de l'argent pour résoudre le conflit qui n'existait pas à l'époque. Donc nous pensons que la première chose pour qu'on puisse espérer ou s'attendre à une paix à l'Ituri, il faut d'abord qu'on relève immédiatement M. Abdallah Jefferson, l'actuel gouverneur.
Voilà, Jean Bosco Lalou, je précise qu'il n'est pas dans le débat pour se défendre, donc nous allons éviter le débat des personnes et rester sur les faits. Poursuivez s'il vous plaît. Poursuivez. Deuxièmement, vous disiez.
Nous disons qu'il faut relever l'autorité provinciale qui a monté ses limites. Ce n'est pas un secret, c'est connu. De deux, nous disons aussi que même lorsqu'on emploie les policiers et l'armée sur le terrain, ils n'ont pas de moyens d'intervenir. Ils le feront comment? Parce que, à un moment donné, on constate aussi qu'il y a problème de moyens de fonctionnement. Mais troisièmement aussi, il y a problème de commandement. Actuellement, comme ça a été soulevé, il y a dans la zone des policiers et des militaires. Mais qui commande? Et lorsque c'est la police qui commande, les militaires estiment qu'ils ne dépendent pas de la police. Donc ça crée une cacophonie dans le commandement. Et nous pensons que si les trois éléments sont respectés, il y a lieu que la population ituri s'attende à une paix.
Mais vous avez suivi Sylvain Aguernoot qui pense que même la société civile, vous avez aussi échoué dans votre mission de sensibiliser les populations à la paix.
Nous pensons que ça, c'est une façon seulement de faux fuyant, parce que même l'armée va prétendre qu'on ne collabore pas avec elle, et même l'État va dire qu'on ne l'aide pas, mais nous pensons qu'ici, il ne faut pas fuir ses responsabilités.
Merci.
Nous disons clairement, il y a déjà, dont les noms ont été remis à l'autorité provinciale depuis le début du mois de décembre.
Merci.
Par rapport aux personnes qui étaient déjà à l'époque citées comme des responsables d'une exécution potentielle.
Merci Jean Bosco Lalo.
N'ont pas été appréhendés.
Merci Jean Bosco Lalo. Merci Jean Bosco Lalo. Je rappelle que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un membre du gouvernement provincial de l'Ituri sont restés vains. Jean Bamanissa, nous poursuivons pour vous. Quelles sont les autres solutions durables à apporter à cette situation?
Oui, Sylvain l'a dit, je profite aussi pour le saluer, en même temps que Jean Bosco et tous les fils et filles de l'Ituri, et les encourager. Il faut vraiment, aujourd'hui c'était une situation assez qui a fait très peur à toute la ville de Bounia. Mais il faut tous se mettre ensemble, et Sylvain le disait, il faut aimer sa province avant tout. Il faut, je crois, partir de cette base-là, que on est là pour les autres, il faut travailler pour les autres et pas pour soi-même. Et la proposition que nous avons faite, et nous pensions qu'elle allait déjà être d'application, c'est bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements, mais c'est il faut un cahier de charges, et dans ce cahier de charges, une des premières choses aussi à mettre en place, c'est la commission pour la paix, et nous avons suggéré que l'Église catholique et protestante puisse la diriger et qu'elle puisse avoir un caractère permanent. Parce que ces questions sont redondantes. Et à partir de maintenant d'ailleurs, il y a eu plusieurs autorités qui sont passées. Il faudrait que tous les jours et toutes les heures pratiquement, nous puissions avoir un compte rendu de ce qui est en train d'être fait pour l'amélioration de la situation en Ituri. Dans tous les secteurs, nous avons parlé de plusieurs secteurs.
En guise de conclusion?
Voilà. En conclusion, c'est que nous devons tous nous mettre ensemble. Ce n'est pas une question de l'une ou l'autre personne. Nous mettre ensemble, chercher la paix, isoler les personnes qui sont en train de commettre ce mal-là, mais aussi qu'il faut qu'il y ait un travail d'ensemble entre la population et sa police et son armée pour qu'elle puisse les soutenir et identifier. Merci. Ces personnes, et que la justice puisse jouer son rôle aussi.
Merci Jean Bamanissa. Sylvain Aguerno-Haut, il faut souligner aussi que l'armée, la police et plusieurs notables de l'Ituri ont dénoncé la présence d'enfants, de plusieurs enfants de moins de 18 ans. En guise de conclusion, pour vous, la solution idéale passerait par quoi?
L'exécutif provincial, l'armée, la PNC, les services de sécurité connexes comme la NER, les autorités coutumières, la société civile, tous, nous devons d'abord nous mettre ensemble pour poser des actions corrélées afin de trouver solution à ce qui se passe en Djougou. Deuxième chose, il va falloir que la justice puisse faire son travail, et c'est pour la raison même que je demande au général Harry Kapend de pouvoir déférer les arrêtés de Ndjougou pour que les Ituriens savent la vérité. Troisième chose, il faut qu'il y ait renforcement, la renaissance, la confiance entre les autorités politico-administratives et la population. Et la dernière chose que je précise, et c'est important, toutes les nations du monde se sont construites seulement sur la base de l'amour entre soi.
Merci.
Sans l'amour, on ne peut rien construire.
Merci. Jean Bosco Lalo, juste un mot pour conclure.
À dernier mot, nous faisons encore confiance à notre gouvernement et nous demandons tout simplement que dans un ou deux jours, il y ait zéro mort et qu'il y ait zéro cas d'incendie.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Willem Lungamba qui m'ont aidé à préparer à présenter cette émission sous la supervision de Peleki Pelamondo. Présentation et coordination Alain Rong Mouchige. Merci de votre attention. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.